Bonjour Alexis Corbière.
Bonjour.
Vous venez de publier aux éditions Le Point sur la Table un petit ouvrage, un pamphlet assez virulent intitulé Le piège des primaires, que vous qualifiez d'ultime ruse des partis du système, de piège, de détournement électoral. Est-ce que le succès de la primaire de la droite, du premier tour qui a eu lieu dimanche dernier avec 4 millions de votants, ne vous conduit pas à reconsidérer votre position ?
Non, parce que des choses qu'on avait observées précédemment dans les primaires, je pense notamment à celle de 2011 organisée par le Parti Socialiste, se retrouvent dans le vote de dimanche. Les gens qui sont venus voter sont sociologiquement très ciblés. J'ai observé déjà hier quelques études qui ont été faites, qui montrent que c'est plutôt les CSP+, les retraités qui vont voter, et les milieux populaires, pourtant majoritaires dans le pays, ouvriers, employés, très abstentionnistes lors des élections générales, sont très abstentionnistes lors des primaires. Ce qui amène à ce que, gare aux illusions d'optique, vous avez certes, et c'est significatif, 4 millions de gens qui viennent voter, mais je crois qu'ils ne sont pas représentatifs des attentes profondes du pays. Vous pouvez avoir 4 millions de sympathisants de droite, un peu chauffés à blanc, pardon de l'expression, qui votent pour un programme qui, selon moi, et un candidat qui porte un programme totalement en décalage avec les aspirations du pays. Donc c'est ce que j'appelle le tamis social.
Ben voilà, c'est ça. Et vous dites qu'elles tiennent à distance les classes défavorisées.
Ben oui.
Oui, mais enfin, qu'est-ce qui empêche les classes défavorisées d'y participer ? Rien, ce sont
si,
des primaires.
Si. Ben, je vais vous dire, c'est que je pense qu'il y a une très très grande distance aujourd'hui avec les partis politiques, avec les cuisines des partis politiques, et que finalement, ce qui est présenté comme prétendument une démocratisation du choix reste quand même la propriété des partis politiques. Et finalement, honnêtement, le choix, les trois options qui étaient possibles pour soi-disant changer, c'est un ancien président de la République et deux anciens premiers ministres. Donc de toute manière, c'est un choix qui était corseté. Le paradoxe tout de même, c'est qu'un des grands ressorts du vote de dimanche, c'était des gens qui voulaient chasser Nicolas Sarkozy et qui ont porté devant l'ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy. Bon, donc vous voyez, malgré l'illusion qu'il y a une mobilisation, ça reste 4 millions de gens qui tournent encore autour des partis. En vérité, selon moi, assez coupé des préoccupations profondes du pays et qui vote pour un homme qui gouvernait il y a encore 4 ans.
Alors vous dites également qu'aujourd'hui, dans les états-majors, je vous cite, les états-majors des vieux appareils politiques, il faut être candidat aux primaires si l'on veut exister politiquement et médiatiquement, qu'importe ce qu'on aura à y dire. Mais est-ce que ça n'était pas déjà le cas avant les primaires, avec les candidatures que les uns ou les autres pouvaient porter à l'élection présidentielle? On en a vu des farfelus quand même.
Tout à fait. Non, mais là, ce que je pointe, c'est la médiatisation, aujourd'hui, l'ultra-médiatisation, notamment à travers les chaînes d'information, de ces primaires. On a vu. Bon, alors, vous aviez 7 candidats à l'occasion de la primaire. On peut même être un petit candidat...
De la droite.
Des primaires de la droite. On peut être un petit candidat qui, après, est amené à avoir un destin intéressant. Je pense notamment à monsieur Manuel Valls, qui faisait 5% dans la première PS et qui est Premier ministre ensuite. Ça dépend un peu des configurations et du rôle que vous pouvez jouer. Donc, de toute manière... Ce que je crois important, c'est que les primaires confortent le poids des sondages, confortent le poids aujourd'hui de ces chaînes d'information. C'est un spectacle qui amène à ce qu'il y a une industrie du sondage qui nourrit la presse qui fait l'événement chaque semaine en disant cette fois-ci c'est ceci, ça se resserre, ça s'élargit, et y compris, ne me prenez pas à défaut, même si sans doute vous allez le faire, mais y compris Fillon, il y a eu la fabrication du personnage
alors,
Juppé.
Il faut quand même citer, parce que vous dites, voilà. Comment le votant fera-t-il son choix ? Réponse simple, il forgera son opinion sous l'injonction des sondages. Or, c'est vrai que là, on vient d'avoir quand même la démonstration du contraire. Juppé était donné très largement en tête depuis des mois et des mois, et finalement, c'est Fillon qui est très largement devant.
Ben, je crois que c'est quand même confirmé. Premièrement, ça marche pas toujours, parce que vraiment, Juppé, c'était une candidature gonflée à l'hélium médiatique de manière assez bidon, d'ailleurs. On nous a présenté, notamment dans une presse qui se dit de centre-gauche, les Inrocks, on faisait des unes sur Juppé, le bonhomme cool qui allait rassembler tout le monde, alors que quand même, plus le débat allait... C'était tellement artificiel que plus le débat se avançait, plus on s'apercevait que c'était quand même le Juppé qui a mis 2 millions de gens dans la rue, un homme dur socialement, etc. Et en même temps, progressivement, même certains sondages et certains médias ont commencé à voir qu'il y avait une possibilité d'en finir avec Sarkozy qui était trop caricatural, en prenant, pardonnez-moi l'expression, le pire de Juppé, le pire de Sarkozy, à travers le personnage de Fillon, qui lui est dur socialement et qui pouvait incarner une forme de changement avec Sarkozy. Moi, c'est surtout ce spectacle médiatique sur lequel il faut s'interroger, finalement. Il y avait beaucoup de bruit autour de certains personnages qui représentaient pas grand-chose. Bon, moi, je suis favorable à ce qu'au bout d'un moment, les sondages, à la veille d'un scrutin, s'arrêtent. Je pense que ce serait bon, par exemple, que un mois avant une élection, au bout d'un moment, le citoyen se fasse une opinion en fonction de ce que proposent les candidats, leurs idées, et plus du poids qu'ils ont dans les sondages, parce que ça amène à ce que des gens soient sur des stratégies de vote de moindre mal. Mais attention, même quand on vote pour le moindre mal, on vote quand même pour quelque chose que l'on considère mal, finalement. Faut voter pour ses idées.
Alors, vous expliquez que le principal argument pour justifier les primaires chez les Républicains comme au Parti Socialiste, c'est la présence annoncée par les sondages, justement, de Marine Le Pen, du Front National, en l'occurrence de Marine Le Pen au second tour. Pour vous, ça, c'est un scénario qui n'est pas acquis, qui est évitable.
Ouais, bien sûr. Moi, je crois que vraiment, alors, c'est un pronostic. Moi, je suis un militant politique, je suis pas un observateur. Mais je pense que ce que nous prouvent ces primaires, ce que nous prouve l'élection de Monsieur Trump, le Brexit, etc., c'est que il n'y a pas de paysage écrit à l'avance. On veut nous imposer un tripartisme, et on veut notamment, parce que moi je suis porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, faire rentrer la dynamique populaire Mélenchon dans une espèce de polarisation autour du Parti Socialiste dans des primaires PS, où en gros on veut dire mettez-vous d'accord avec Monsieur Valls, ce qui est absurde, ce qui n'a aucun sens, alors qu'il y a des millions de gens aujourd'hui qui en ont assez de ce gouvernement, mais qui cherchent une candidature qui représente leurs aspirations pour plus de justice, plus de partage des richesses, une réponse écologique, et surtout en finir avec la monarchie présidentielle de la 5ème République. Donc c'est une astuce, mais ce paysage politique de tripartisme, il n'est pas écrit à l'avance. Si des millions de gens se mêlent de leurs affaires, si ces millions d'abstentionnistes que l'on ne voit pas actuellement dans les sondages, mais pourtant plus de 50% de nos concitoyens ne sont pas allés voter aux dernières élections, si eux se mêlent de leurs affaires, on peut faire exploser ça. Et moi, je crois que c'est ce qui va avoir lieu. Vous allez voir, vous allez être surpris. Vous savez, et je vous en fais reproche, les médias, pardon de cette généralisation, mais en même temps qu'on gonfle...
On est habitué.
Qu'on fait des événements autour de la candidature de Monsieur Macron, 20 minutes au journal télévisé, le même jour, par exemple, à Chambéry, Jean-Luc Mélenchon faisait 1500 personnes en meeting. Intéressez-vous un peu, Frédéric Rivière, je généralise, mais vous voyez bien, on a parlé de Juppé, on fabrique aujourd'hui la candidature Macron, alors qu'il y a notamment la candidature Mélenchon qui est extrêmement dynamique.
Et il en est assez largement question aussi tout de même.
On n'a pas 20 minutes au journal, Monsieur Macron a eu droit à 94 une de journaux en l'espace de 2 ans, mais nous, alors, zéro.
Puisque vous dites tant de mal des primaires, au fond... vous devriez saluer la démarche de Macron qui, lui, s'inscrit dans une trajectoire à l'ancienne, comme Mélenchon.
Mais je ne ni salue pas, c'est pas le problème. Non, mais j'observe que elle est, pour ce qui est, pardon, de Macron, je répète mes arguments, elle est quand même largement aidée par certains médias, journaux et sondages qui nous la survendent de la même manière qu'il y a eu on a survendu Monsieur Juppé. Bon, mais ça, c'est pas, nous, on va rentrer en campagne. Moi, je suis pas là pour critiquer les uns les autres. Je suis là pour avancer sur mes propositions. Puis les gens jugeront. Vous savez, le peuple souverain tranchera. Il n'y a pas de problème. Mais Mélenchon, je crois, est en dynamique et répond au moment dans lequel nous sommes. Les gens veulent un changement, veulent plus de justice. Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui, vous avez 500 personnes en France qui ont une fortune équivalente à 496 milliards, qui est l'équivalent des recettes de l'État. On n'a jamais vu une telle concentration de richesse sur une minorité. Et à côté de ça, 9 millions de gens en situation de pauvreté, plus 1 million en 10 ans, 6,6 millions de chômeurs, plus 1 million en 5 ans. C'est ça, la France dans laquelle on vit. Et ça, les gens n'en peuvent plus.
Alors, François Fillon pourrait... devenir dimanche prochain, en prudent, candidat de la droite à l'élection présidentielle. Et le PS se dit que finalement, eh bien, c'est un adversaire assez intéressant avec ses positions très libérales sur les questions économiques et, à l'inverse, assez conservatrices sur les questions de société. Est-ce que vous faites la même analyse, du côté de Jean-Luc Mélenchon?
Oui, mais il faut jamais apparaître comme cynique. C'est intéressant, pas intéressant.
Mais enfin, c'est aussi de la stratégie.
Oui,
la politique,
Donc, mais je crois que le PS, pardon de l'expression, il est carbonisé. Parce que face à cette droite dure, les gens comprennent que ceux qui ont assumé le gouvernement et les politiques menées par M. Hollande et Valls, c'est une digue de papier pour résister à ça. Et on le voit bien. Les Clinton, qu'ils soient français ou je ne sais trop quoi, seront battus par des Trump et une droite dure. Aujourd'hui, on voit bien que face au projet de Monsieur Fillon, c'est pas qu'il veut casser le code du travail, qu'il veut rallonger la durée de cotisation pour passer à la retraite. C'est pas ceux qui ont rallongé la durée de cotisation pour passer à la retraite, parce que je rappelle qu'avec le gouvernement de Monsieur Hollande et Monsieur Hérault, on a rallongé le délai du temps de travail pour passer à la retraite. C'est pas ceux qui ont remis en cause le code du travail avec la loi El Khomri qui sont une véritable protection contre ça. C'est pour la raison pour laquelle je crois la campagne Mélenchon sera en dynamique et nécessaire pour beaucoup de gens qui montreront que c'est comme ça qu'on va s'en sortir par finalement une France plus républicaine, plus juste, qui répond à l'urgence écologique, l'urgence sociale et l'urgence démocratique.
Merci Alexis Corbière.